Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo, je suis ravie de vous retrouver. Dans quelques jours, dans un peu moins de deux semaines, les 2 et 3 juin, Paris Expo Porte de Versailles, le hall 6, va se transformer en quartier général des élus franciliens. C'est le salon de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, qui ouvrira ses portes pour sa 30e édition. Et pour en parler, j'ai avec moi justement l'homme qui porte ce rendez-vous depuis sa fonction de président de l'AMIF, mais qui est aussi, alors on va prendre le temps de le dire, maire d'Évry-Courcouronnes, vice-président de la région Île-de-France, président de Grand Paris Sud et président de Genopole. Stéphane Baudet, bonjour.
Bonjour, ça fait un peu cumulard dit comme
ouais,
ça.
Ouais, mais je préfère dire toutes vos casquettes quand même.
C'est bien.
Bon, là vous venez en tant que président de la MIF et que maire... Et que maire, parce que quand même,
c'est ça.
C'est important
oui,
de le préciser.
Les deux, en général. Oui.
Alors, on a beaucoup de choses à se dire concernant ce salon. Déjà, pour commencer, on va commencer avec les questions pratico-pratiques. Pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient y aller, c'est quoi exactement ce salon ? À qui il s'adresse et à qui c'est accessible, voilà.
D'abord, il est accessible à tous, notamment les élus, alors les maires, bien sûr, enfin les maires adjoints, les conseillers municipaux, les administrations, les cabinets. C'est un salon où vous allez rencontrer tous les partenaires de la ville. Je rappelle que l'association de la MIF marche sur deux jambes, à la fois la MIF et la MIF partenaire, qui est un regroupement des grandes entreprises qui travaillent avec les collectivités. On a plus de 200 stands qui sont présents sur ce salon et qui recouvrent, je me permets de le rappeler, dans une mairie, c'est 450 métiers différents qui s'exercent. Dans une seule mairie.
Bah, voilà. Après, ça dépend des mairies.
Alors, ça dépend de la taille des mairies, évidemment.
Je connais une petite mairie en Normandie.
Si on n'a pas de régie de services techniques, évidemment, on en a tout de suite beaucoup moins. Mais enfin, grosso modo, dans une grande collectivité comme la mienne, c'est très exactement 450 métiers. Et donc là, vous allez avoir un échange à la fois sur les bonnes pratiques, sur les nouveautés, sur les nouvelles tendances. Et ce salon est d'autant plus important qu'il se situe quelques semaines à peine après le renouvellement municipal, qu'on a eu un renouvellement municipal important dans toute la France et dans la région. Alors évidemment les maires, mais derrière les maires, c'est quasiment un tiers minimum pour les équipes renouvelées de nouveaux élus dans les équipes municipales. Et donc ça va être l'occasion de discuter un tout petit peu de la façon dont on rentre dans ce mandat. On a commencé à le faire avec des webinaires et des réunions de travail, de formation et d'accompagnement. Et puis le salon va être l'occasion de quelques débats sur les grandes orientations du mandat, les combats qui sont les nôtres, on les connaît par cœur évidemment sur
les auditeurs ne le connaissent pas forcément
sur la question des moyens notamment je rappelle qu'on a eu 2500 maires qui ont démissionné au mandat précédent et que la plupart des maires démissionnaires sont des maires qui avaient été élus en 2020, donc c'est le choc de la réalité quand on arrive
2500 démissions
à l'échelle nationale
sur toute la France,
voilà, dont une majorité qui étaient des élus de 2020 parce qu'ils ont pris de front la réalité de ce qu'est le mandat local, c'est-à-dire de plus en plus d'exposition vis-à-vis des habitants de plus en plus demandeurs, des compétences de plus en plus larges et de moins en moins de moyens pour essayer d'y répondre. Et comme le dit souvent Gérard Larcher, président du Sénat, qui sera d'ailleurs à la cérémonie inaugurale, on est nous à portée de baffe et donc évidemment c'est parfois assez difficile à assumer.
Et il y en a plus des baffes, il y en a de plus en plus.
Oui, je confirme.
Il y a quand même une montée des incivilités.
Je confirme, menaces, etc. D'ailleurs, le ton de la campagne électorale, et pas seulement d'ailleurs d'un extrême à l'autre, y compris chez les démocrates républicains, appelons-les ainsi, ou les progressistes, les campagnes ont été d'une violence sur les réseaux assez insoutenable et assez nouvelle quand même.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause des réseaux sociaux tout ça ?
Ah, moi, je dis depuis souvent, y compris sur votre plateau, que je pense que l'avènement de l'ère numérique est l'un des éléments qui va déstructurer, sinon tuer, nos démocraties. Ça fait longtemps que je le pense. C'est une parole libre et ouverte, accélérée. Alors, la question quand on aime l'histoire, la question des fake news, etc., les fake news ont particulièrement, par exemple, pesé sur la Révolution française, on le sait pas, mais c'était du papier, ça se diffusait pas aussi vite, etc. Là, c'est une accélération de l'information. C'est quand même des chaînes médiatiques qui s'opposent, y compris idéologiquement, 24/24. Bref, il y a un environnement qui crée une tension qui, ajoutée à une crise sociale, génère une espèce de cocktail explosif qui est quand même pas loin de nous péter à la gueule.
Et c'est vrai que les fake news, ça a toujours existé.
Oui,
c'est
on le dit pas.
Par exemple,
exactement.
Qui a massacré les Ukrainiens, l'Holodomor, qui avait fait croire que c'était une famine internationale alors que c'était Staline qui les
massacrait. Il faut relire l'excellente biographie de Lénine, c'est passionnant.
Exactement. Alors, on va revenir au salon de la MIF, parce que là, on s'est un petit peu éloigné. Donc, c'est les 2 et 3 juin 2026. Est-ce que ce salon est gratuit ou est-ce qu'on concrètement qu'on peut
bien sûr
pour les sur internet.
Oui, complètement, il suffit d'aller sur le site du salon, le site de la MIF, et on trouve toutes les informations pour pouvoir retrouver son badge. Et on a même été un petit peu plus loin puisqu'on a créé même des navettes bus qui traversent la région Île-de-France pour permettre à toutes et tous de venir en covoiturage ou en tout cas en une sorte de transport collectif qui peut faciliter la convergence vers la porte de Versailles, même si la porte de Versailles c'est un parc d'exposition, c'est bien desservi, il y a des parkings, etc. Mais pour celles et ceux qui ont envie de venir en groupe, c'est peut-être parfois un peu plus sympa, un peu plus convivial. Ça permet aussi de se faire des petits rendez-vous entre élus, de se découvrir, de se connaître dans le quart, donc c'est pas mal.
Alors le thème de cette année, c'est engagement et proximité de l'élu local, quelle clé pour réussir son mandat ? Vaste sujet. Alors quand on voit, c'est vrai que la pression qui pèse sur les maires, hein, vous l'avez dit aujourd'hui, on sent qu'il y a derrière un thème vraiment, enfin un thème, c'est une vraie inquiétude qui monte sur l'exercice du mandat justement.
Oui, bien sûr, encore une fois, c'est la capacité à réaliser ces projets, la réalité financière qui nous entoure, la pression, les injonctions contradictoires. Je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, la ville d'Évry-Courcouronnes que j'administre, c'est 230 bâtiments publics communaux. 230. Ouais. Voilà, l'État qui nous impose des normes, notamment en matière de déperdition énergétique, et en même temps, il me baisse mes dotations et il baisse le fonds vert. Voilà, donc il faut faire de la magie, il faut s'appeler Harry Potter aujourd'hui pour être élu. Et je préside l'agglomération Grand Paris Sud, qui est une des deux plus grandes dans la strate communauté d'agglomération de France. La totalité de ressources perdues par l'État, c'est 31 millions d'euros en deux ans. Voilà, et donc on nous demande toujours plus, ça va être beaucoup moins, j'ai encore
même une petite... Même si après, il y a des coupes budgétaires, mais ça, on le comprend.
Voilà, il y a des...
Alors, on comprend, les finances publiques...
On le comprend, non, parce que j'aime à rappeler deux éléments qui sont extrêmement importants. Là aussi, je le rappelle sur votre plateau tous les ans, et j'aime bien, parce que les tendances sont plutôt dans le sens des collectivités locales. D'abord, nous votons, c'est la loi des budgets équilibrés. C'est pas complètement anodin. Je crois pas que le budget de l'État soit équilibré depuis quasiment...
Alors ça dépend, Hidalgo, son budget n'était pas équilibré.
Oui, alors enfin, le budget voté est obligatoirement équilibré. Après, il est rejeté, il peut être mis sous tutelle du préfet, il peut être considéré comme insincère. Mais enfin, la règle, la loi, c'est qu'un budget...
doit être équilibré.
Je me permets de rappeler d'ailleurs à celles et ceux qui pensent que les maires font ce qu'ils veulent, que toutes les décisions qui sont prises en conseil municipal ne sont exécutoires qu'à partir du moment où elles sont passées sous les fourches codines de ce que l'on appelle le contrôle de légalité en préfecture. Donc, voilà.
Donc c'est si, contrôlé.
Donc,
c'est
si, voilà,
contrôlé.
Donc si on fait un budget insincère, c'était arrivé, je me souviens, il y a très très longtemps à Serge Dassault, à Corbeil-Essonne, bah, l'État rejette le budget. Donc le premier élément, c'est que nous, on a un budget équilibré en recettes comme en dépenses. Le deuxième élément, c'est que les collectivités locales, qui pèsent pour 30% de la commande publique en France, hein, j'aime bien rappeler que quand Manuel Valls met en place le pacte de stabilité, c'est-à-dire 11 milliards de moins pour les collectivités en 2014, en 2015, il y a 30 000 emplois en moins dans le BTP. La relation de cause à effet, elle est hyper importante. Sauf que l'année dernière, sur votre plateau, je vous expliquais qu'on ne participait, nous, collectivités locales, que pour 9% de la dette du pays. Cette année, on ne représente plus que 8%. Donc on voit bien que ce n'est pas les collectivités locales le problème de l'État global dans notre pays. En revanche, c'est évidemment à chaque fois sur nous qu'on s'adosse pour prendre des décisions difficiles, puisque nous devons les assumer après au niveau de nos habitants. C'est une façon aussi de déconcentrer la responsabilité politique.
Et donc là, le message est passé.
Voilà. Et vous noterez qu'il est constant.
C'est vrai. C'est vrai que ça change pas. C'est toujours le même.
Ouais, c'est ça.
La même musique qu'on entend. Donc on l'a dit, le mandat, des mandats de plus en plus difficiles. Est-ce qu'on va en parler ça sur le salon?
Oui, bien sûr, à l'occasion évidemment de la table ronde, hein, qui aura quand même un certain volume de jeu. On aura le président du Sénat, on aura le nouveau maire de Paris, on aura le président de la MGP, dans un moment où il y a, semble-t-il, un débat autour de la MGP, où le gouvernement a annoncé une fois de plus, on entend ça à chaque début de mandat présidentiel, puis à chaque début de mandat municipal, une réforme territoriale qui finalement accouche systématiquement d'une souris de plus en plus petite. Bref, donc on va avoir toutes ces discussions-là, puis on va aussi, comme d'habitude, avoir des tables rondes, des ateliers, des échanges, y compris des échanges de bonnes pratiques. Donc oui, je pense que c'est vraiment l'occasion de poser une fois de plus tous ces sujets.
Ça fait deux fois que vous mentionnez les échanges de bonnes pratiques. C'est quoi des échanges de bonnes pratiques?
Non, je pense que les maires, les élus, de manière générale, sont des inventeurs du quotidien. C'est-à-dire que les équations qu'on a à résoudre nécessitent qu'on soit hyper créatif, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, pas tous les mêmes territoires. Je rappelle que la collectivité communale est la seule qui a encore une clause de compétence générale. Hein, parce que quand vous êtes maire d'une ville perchée en haut d'une montagne, maire d'une ville côtière ou maire d'une ville francilienne, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins pour votre population et vous adaptez. Comme par exemple, parce que tout le monde ne le sait pas, mais l'Île-de-France est le premier désert médical français. C'est l'endroit de France où il y a le moins de médecins par habitant, l'Île-de-France.
Ouais,
et il se trouve que je suis élu en Essonne. Le département d'Essonne, c'est celui qui en a encore le moins dans les départements franciliens. Quand je crée une maison de santé, je pense à ma maison de santé Simone Veil, ça m'a coûté 2 500 000 euros d'investissement de la commune. On a eu que 600 000 euros de subvention, c'est une compétence qui n'est pas communale. Donc on a créé quelque chose. Bah, c'est un exemple de bonne pratique sur un choix politique que l'on a fait, que l'on a exercé dans le cadre de cette clause de compétence générale et qui peut attirer telle ou telle collectivité qui aurait l'idée de faire quelque chose pour s'adapter aux difficultés ou aux demandes nouvelles de nos habitants.
Donc les médecins, ça fait partie des attentes des habitants. Quelles sont les autres attentes des habitants?
La santé, la sécurité, le logement. Enfin, à la fois le logement par sa pénurie, il manque 1 million de logements. Enfin, la déstructuration du foyer familial qui s'accélère. Hein. Je crois qu'on est aujourd'hui en moyenne à 1 divorce sur 2 à l'échelle nationale, 2 sur 3 en Île-de-France, c'est colossal.
2 sur 3 en Île-de-France. Oui,
c'est évidemment colossal, bien sûr.
Ensemble.
Moi, je dépasse sur ma ville les 35% de familles monoparentales.
Ouais.
Dans une ville de 80 000 habitants, donc c'est évidemment vertigineux. J'ai 6 500 demandes de logement dans ma ville pour 300 logements qui se libèrent par an, 450 logements qui se libéraient par an il y a 2 ans. Donc on voit bien que la pression s'accélère et que de fait, on a de moins en moins de demandes. Et puis il y a aussi le financement du logement. Il y a le financement du logement pour les investisseurs. Il y a le financement du logement à travers la prime des maires bâtisseurs sur laquelle on s'était battu à la MIF, qu'on avait obtenu l'année dernière, qu'on n'a plus cette année. C'est-à-dire quels sont dans un moment où évidemment on perd des dotations, quels sont les moyens qu'on nous donne pour créer les équipements publics qui vont nous permettre d'accueillir nos nouveaux habitants. Parce que le logement, c'est très sympathique, mais enfin il faut du commerce, il faut des écoles, il faut des gymnases, etc. Et puis il y a la question ensuite, qui est beaucoup moins abordée dans ce pays, il faut aller au congrès spécifique de l'USH en octobre pour entendre ce débat, mais il est essentiel, c'est évidemment la déstructuration du financement des bailleurs sociaux, qui d'abord s'engageaient grandement dans la création de nouveaux logements qui sont en train de ralentir l'investissement sur le nouveau logement, et quand ils s'investissaient sur le nouveau logement, ils entretenaient moins leur patrimoine existant, maintenant ils font les deux, c'est-à-dire qu'ils construisent de moins en moins, et ils continuent de ne pas entretenir un patrimoine qui se dégrade extrêmement vite, des conditions d'habitat indigne en Île-de-France aujourd'hui.
Alors, pas tous les bailleurs sociaux, hein. Vous êtes dur. Je prends par exemple le cas d'Action Logement, l'exemple d'Action Logement. Ils sont en avance sur leurs objectifs de rénovation.
Oui, mais sur la construction, mais parce que Action Logement...
Non, sur la rénovation.
Oui, mais Action Logement, en fait, est partie prenante de l'ANRU. Il est autour de la table, il est dans le pacte actionnaire, disons-le comme ça, dans la maquette financière des projets de rénovation urbaine. Je me permets de rappeler pour les plus anciens que dans le temps... Ça fait vieux con quand je dis ça, mais enfin, disons, avant 2004, avant la création par Jean-Louis Borloo de l'ANRU, il y avait une ligne de financement qui s'appelait les crédits Palulos, qui permettait aux bailleurs sociaux de rénover leur patrimoine. Ces crédits ont disparu, ils ont été d'une certaine manière fusionnés dans ce qu'est aujourd'hui la courbe de financement de l'ANRU, tant et si bien qu'un bailleur qui a une opération qui n'est pas en ANRU, n'a plus de financement pour porter. Donc en réalité, sur la foncière, sur Action Logement, sur tous ces partenaires que l'on a dans la rénovation urbaine, pas de problème. Quand vous êtes dans un périmètre où vous n'êtes plus en rénovation urbaine, y compris dans une ville comme la mienne, ça devient très très compliqué. J'étais un des co-rédacteurs du premier rapport sur le PNRU 1 en 2008-2010. Et déjà, on alertait sur à la fois la problématique des franges, c'est-à-dire là où on n'était pas intervenu, quelles conséquences ça aurait, et puis surtout sur la façon dont on avait siphonné les capacités de financement des bailleurs, des collectivités, etc. Aujourd'hui, sur le logement social, par exemple, je pense qu'on a une petite bombe sociale devant nous qu'on est en train de pousser et qui va pas tarder à péter.
Le logement social.
Oui.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Donc si on doit, on va dire, classer ses priorités, les priorités des habitants, en numéro un, c'est le logement? Ou c'est quoi?
Alors, Alors moi, c'est toutes. Je considère qu'elles sont toutes importantes parce qu'elles touchent des gens. Donc elles sont toutes importantes.
Je parle de vos habitants.
Vous aurez, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de notre salon, un sondage au Doxa qui a interrogé 1000 personnes en Île-de-France et qui donnera l'état réel des priorités de nos habitants. On s'en garde l'exclusivité pour
l'ouverture. Oui, les résultats seront
communiqués. Voilà, exactement. Donc on va s'en garder l'exclusivité pour l'ouverture du salon, mais assez clairement. Santé, sécurité, logement. Après, il y a évidemment les questions éducation, environnement, etc. Mais on est vraiment là sur un trio qui est particulièrement prégnant quasiment partout, d'ailleurs.
Ça fait combien de temps que vous êtes maire, vous ?
25 ans.
25 ans.
Je débute mon cinquième mandat.
On a l'impression que vraiment tout se dégrade. Alors, est-ce que ça fait un peu vieux con de dire ça ou est-ce que c'est vrai?
Non, moi je confirme. Alors, ça donne toujours une vision un tout petit peu dystopique, mais ouais. Il y a quasiment aucun indicateur que j'ai connu en devenant maire qui s'est amélioré. On a vraiment le sentiment. D'ailleurs, je ne dis plus qu'on cumule les crises. J'ai plutôt le sentiment. Je vais me projeter un peu plus loin que mes cinq mandats. Je suis né en 1972, donc je fais partie d'une génération à qui on n'a jamais parlé d'autre chose que la crise. Il faut se mettre ça psychologiquement dans un esprit collectif, dans un pays. C'est-à-dire que tous les cinquantenaires de mon âge, on n'a jamais connu autre chose que la crise. Or, en réalité, est-ce qu'on a réellement cumulé des crises ou est-ce qu'on est dans un monde profondément en transition dans lequel le système démocratique a beaucoup de mal à s'adapter? Je pense qu'on est en train de vivre ça, la question de l'endettement, la question de la paix en Europe alors qu'ailleurs la guerre revient. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de cycle infernal historique qui est en train de s'imposer à nous. Donc en effet, les cadrans vont plutôt vers le rouge que vers le vert, quels que soient les sujets que l'on prend. Et on voit bien d'ailleurs que, y compris l'État, en permanence, dans ses postures et dans la schizophrénie permanente, il vous dit il faut développer Lausanne, mais en même temps il faut construire. Enfin, je vous garantis que quand vous faites
Lausanne,
deux rendez-vous...
Lausanne, c'est la zéro artificialisation.
Exactement, quand vous faites en tant que président de la MIF deux rendez-vous dans la journée et que vous allez passer une heure avec un ministre de l'Environnement puis une heure avec le ministre du Logement, c'est plus vous habitez. Hein.
Ouais. Et quelles seraient les solutions pour pallier à tout ça?
Les solutions sur la question notamment environnementale, ZAN et logement, c'est je considère qu'il faut assumer une spécialisation des territoires. Il y a des territoires ruraux, périurbains, des terres agricoles qui sont à protéger. Si on veut les protéger, il faut donc, parce qu'il manque 1 million de logements, construire dans les zones denses où il y a déjà les services publics, où il y a déjà les transports. Ça veut dire construire ou reconstruire la ville sur la ville, mais construire ou reconstruire la ville sur la ville, c'est plus cher que le construire sur un terrain nu. Et donc, ça nécessite des accompagnements financiers ad hoc.
Alors, je reviens au salon. Cette année, donc, il y a beaucoup de contenu dédié aux nouveaux élus.
Bien sûr.
Vous l'avez dit, il y a des nouveaux élus qui ont été élus là en mars dernier. Vous avez notamment lancé des ateliers début de mandat. Ça consistera en quoi?
Ça a déjà commencé, hein, c'est des webinaires thématiques par thématique sur lesquels on essaie d'accompagner.
Donc ça, c'est la MIF qui a lancé ça.
Exactement. En fait, d'une certaine manière, on l'a toujours fait. Mais l'effet Covid, dont je rappelle quand même que le premier confinement a été imposé 72 heures après le premier tour de la précédente élection municipale.
C'est vrai.
Donc mon équipe, qui a été élue en 2020, comme toutes les élections d'ailleurs, au premier tour, s'est retrouvée confinée au bout de 3 jours. Quand vous renouvelez la moitié de votre équipe et que vous avez à les former, autant vous dire que c'est évidemment compliqué. Et donc on s'est mis en branle avec la MIF pour créer, à l'époque, on bidouillait tout sur ce qu'allait devenir Zoom et compagnie, sur les réunions à distance. Et puis finalement, on a fini par créer des webinaires en avril, mai 2020. Et on a fini par prendre cette habitude qui nous a permis là, dès le début du mandat, d'enclencher un dispositif virtuel ou en tout cas à distance, pour essayer d'attirer un maximum de participants. C'est que ça, essayons de positiver quand même au moins cette avancée. La MIF est une association régionale dans une région extrêmement dense. Quand on faisait une réunion au siège de la MIF avant le Covid, on avait 5, 10, 15, 20 personnes qui venaient. Quand aujourd'hui on fait une commission, je sais pas moi, santé, sport, etc., via une webinaire, on peut avoir 60, 80, 90 personnes. Donc voilà. Et en fait, on a démultiplié ça de façon un petit peu plus industrielle, si je peux le dire ainsi, sur ce début de mandat pour accompagner à la formation tous les élus. Mais toutes les associations s'y sont mises. L'AMF a publié un guide du jeune élu, ils ont publié un guide de l'intercommunalité en France. Enfin, il y a aujourd'hui une documentation assez riche pour permettre d'accompagner les nouveaux élus, avec évidemment toujours après l'inquiétude de la lisibilité, de la visibilité sur notre capacité d'agir en fonction des moyens que nous aurons.
Alors, autre sujet fort, l'alimentation en Île-de-France. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de restauration collective, de circuits courts. Quel rôle peuvent jouer les collectivités justement sur ces enjeux?
De massifier les commandes. Évidemment, à l'échelle d'une commune, on ne peut pas le faire. À l'échelle d'une agglomération, on peut commencer à le faire. À l'échelle d'un département, on peut essayer de le faire. Vous voyez, l'Essonne a essayé de travailler sur une légumerie, ils n'ont pas réussi tout seuls. La région Île-de-France a initié des travaux de mutualisation lycée-collège, par exemple Île-de-France, Val-de-Marne. Il faut essayer de massifier. Il faut essayer de massifier pour essayer de créer un modèle économique pour nos agriculteurs. C'est un élément important qui, là aussi, ne fait pas souvent partie du débat public. Ça participe aussi de la méconnaissance de la région Île-de-France. Parfois même d'ailleurs des franciliens, on est le premier grenier de France. On est la première région céréalière de France. On est une terre agricole, l'Île-de-France. L'Île-de-France est complètement à l'image du pays. Il y a 800 communes qui ne font pas 2000 habitants sur les 1200 communes d'Île-de-France. Donc, c'est une région de village, même si elle a une super densité. Mais il se trouve que cette fonction céréalière en Île-de-France est principalement tournée vers l'export. Donc, sur un modèle économique hyper rentable pour les agriculteurs, qui, pour une très, très grande majorité d'entre eux, n'ont absolument pas envie de faire pousser des patates, des carottes ou des tomates pour nos écoles. Et donc, pour accompagner ce changement-là, il faut massifier, il faut trouver des tailles critiques qui permettent de le faire. Je crois que tout le monde est en train d'essayer de travailler vers cela. L'augmentation très, très forte par l'inflation du coût des repas dans les DSP classiques a ouvert quand même des voies nouvelles. Et puis, je pense qu'on est toutes et tous bien plus attachés pour nos enfants, nos petits-enfants, à essayer d'avoir une nourriture un petit peu plus équilibrée dans nos cantines. Donc je pense que ça fait partie des rares sujets qui s'améliorent. Enfin, on mange mieux dans une cantine aujourd'hui qu'on y mangeait il y a 10 ans.
Oui, il y a une prise de conscience en tout cas
véritablement,
sur l'alimentation.
Véritablement, mais là aussi, extrêmement portée par les collectivités.
Bien sûr.
Quand vous êtes à Évry-Courcouronnes et que j'ai mis la première tranche de quotient familial à 1 euro, quand j'ai mis la tranche de quotient familial à 1 euro, le coût consolidé du repas denrées, 4,70 euros à peu près, personnel, fluide, amortissement du bâtiment, c'était à peu près 11,50 euros. À la fin du mandat qui vient de s'écouler, ce repas en coût consolidé est passé à 15 euros. C'est toujours 1 euro pour la population. Donc la population ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est nous, ville, qui absorbons cette inflation considérable. Hein. Je sers 5500 repas par jour quand même à Évry, donc c'est considérable. On parle de millions à la fin de l'année. On a réussi socialement à tenir et à ne pas reporter ça sur les familles, mais c'est évidemment de plus en plus dur.
Oui.
Et quand derrière vous demandez une augmentation de la qualité du repas sur du sucre court ou sur
bien sûr.
Bio qui évidemment coûte plus cher, vous posez la question à deux entrées, est-ce que j'augmente la tarification pour les habitants ou est-ce que j'augmente la pression sur la ville qui elle-même va de toute façon devoir faire des choix.
Ouais. Au bout d'un moment, il faut arbitrer.
Ah ben voilà.
Alors le salon réunit aussi, donc on l'a dit, plus de 200 exposants et entreprises. On parlait innovation. Aujourd'hui, les collectivités ont-elles besoin plus que jamais d'innovation et de partenariats privés, justement? Ça fait une bonne transition pour continuer à faire fonctionner les territoires.
Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours revendiqué. Et d'ailleurs, juridiquement, on est particulièrement solide, assez exemplaire. Hein, même quelques journaux qui ont essayé de nous chercher des dépôts dans la tête. Je pense à un article et un dossier du Monde il y a 2 ans qui a voulu regarder à quoi ressemblait le fonctionnement d'une association de maires avec une association d'entreprises à côté pour essayer de voir si toutefois il n'y avait pas quelque chose à aller gratter. Et finalement, l'article qui est sorti nous félicitait plutôt sur la transparence et son fonctionnement. C'est parce qu'on assume, nous, clairement, que sans nos administratifs, d'ailleurs sans nos fonctionnaires, sans les entreprises, nous, on n'est rien. Encore une fois, l'élu, il est à la fois incompétent. Je disais tout à l'heure, il y a 450 métiers dans une collectivité. Moi, j'étais journaliste avant d'être maire, quand j'arrive dans la collectivité, la plupart des métiers exercés par la collectivité, moi je ne les connais pas. Or, mon boulot d'élu, ça va être de prendre des décisions face à des fonctionnaires ou des entreprises qui s'y connaissent mieux que nous. Et en fait, on a nos fonctionnaires avec leurs compétences et on a les entreprises qui ont, dans leur modèle économique, une obligation d'agilité, d'inventivité qu'on a peut-être nous, peut-être un petit peu moins, alors qu'on a de plus en plus par la baisse des moyens. Et donc, on a destin lié. Voilà. Et donc, je considère que c'est très, très bien de pouvoir continuer à écouter les solutions des entreprises. On a une particularité à la MIF, c'est qu'on refuse les situations monopolistiques. Comme par exemple, on fait un petit déjeuner d'information sur la restauration scolaire que vous évoquiez il y a quelques minutes. On prend deux prestataires de restauration collective qui animent et qui co-animent de manière à ne pas être inclinés vers l'une ou vers l'autre, mais pour poser les sujets de demain, ceux qu'on vient d'évoquer, par exemple. Donc, on a besoin de l'inventivité, de l'agilité des entreprises. Idem quand il s'agit de construire du logement. La plupart des modèles de construction de logements d'il y a 10 ou 15 ans sont périmés. La plupart des ZAC, les zones dans lesquelles on construit en Ile-de-France, sont aujourd'hui déficitaires. Il faut donc trouver d'autres montages financiers, etc. etc. Enfin, voilà. Et donc, sur tous ces sujets-là, il faut être en invention quasi permanente. Enfin, alors pour le coup, vous me posiez la question tout à l'heure, depuis combien de temps je suis maire? Depuis 25 ans. Mais je ne fais plus du tout le métier pour lequel je me suis engagé il y a 25 ans. Ça a profondément muté.
Donnez-nous des exemples.
Non, mais la question... je vais donner un seul exemple. Il est assez simple à comprendre. Parce que pour le coup, là, ça fait très vieux con. Mais quand j'ai été élu en 2001, l'une de mes promesses à mes habitants, c'était de répondre à leur courrier, écrit, lettre, timbre, sous 15 jours. Aujourd'hui, je réponds à une centaine d'habitants en direct sur les réseaux sociaux en permanence. Ma pochette courrier à la mairie, c'est plus des courriers qui arrivent par la poste, des courriers qui arrivent par les mails ou qui arrivent sur ma boîterie, ma boîte de Messenger. Donc, je veux dire, fondamentalement, ne serait-ce que le contact à l'habitant, démocratique, a profondément muté. Bah, vous trouvez ça partout. L'accélération. Allez dire à un habitant qui vous envoie un mail, je vais vous répondre sous 15 jours. Le principe du mail, c'est qu'il a une réponse dans l'heure, sinon il hurle. Voilà, c'est un peu le, peu le truc. Donc en fait, tout ça a changé.
Et
donc, voilà, je vous confirme. Moi pas, parce que je gère moi-même mes réseaux, mais autant vous dire que c'est.
Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux.
Autant vous dire que c'est. Oui, mais c'est.
Moi, je vous ai écrit, j'ai fait une demande, vous m'avez répondu tout de suite.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'on reconnaît que vous êtes. Et d'ailleurs, vous êtes connu et reconnu pour ça. Vous êtes très réactif, vous êtes vraiment engagé, vous êtes un maire engagé. Bon, c'est le cas de beaucoup de maires, mais il faut quand même le souligner quand c'est comme ça. Pour résumer le salon, un mot pour résumer l'édition 2026.
Un mot. Avenir, je sais pas. Ensemble.
C'est possible, c'est ça difficile. Encore ensemble.
Ah, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Enfin moi je, pour le coup je vais faire la leçon à personne là-dessus, mais j'ai été en quartier politique pendant 30 ans d'ailleurs, pile. J'ai lâché ma dernière carte politique il y a à peu près 12 ans et je suis à la tête de la seule ville-préfecture de France dont les maires adjoints vont de la Ligue communiste révolutionnaire aux Républicains. Le seul. Ça existe nulle part ailleurs. Et on m'avait promis l'enfer. On m'avait promis de l'eau tiède parce qu'on serait incapable de prendre des décisions. Bon, on vient de conclure un mandat où on a dépensé 280 millions d'euros d'investissement. On a reconstruit une grande partie de la ville-préfecture en à peine 6 ans et où on a été réélu très largement au premier tour avec un étiage politique comme ça. Donc, on peut faire ensemble. Enfin, quand on est capable de comprendre qu'il y a bien plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous opposent, quand on est capable de comprendre qu'on est dans une situation de crise qui nécessite que, et quand on est capable de comprendre que les solutions de conflits nationaux, partisans, ça ne marche pas et que les habitants veulent autre chose, mais on arrive à faire la démonstration locale. Et j'ai pris mon exemple parce que dans une ville-préfecture, c'est rare. Mais enfin, ne nous trompons pas. Il y a quasiment, si je cumule les non-inscrits et les maires dits divers, dont je fais partie, nous sommes quelque chose comme 890 sur les 1200 communes d'Île-de-France. C'est ça la réalité du paysage politique en France. Voilà.
Vous prêchez une convertie.
Qu'il faut faire ensemble, définitivement.
Je suis convaincu qu'un maire ne peut pas être soit de droite, soit de gauche. Voilà. Il y a un peu de tout. Faut nuancer quand on est sur le terrain comme ça.
Exactement.
En tout cas, je retiens cette phrase. Ensemble, il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent. On va terminer là-dessus. C'est une phrase qu'il faut retenir. Merci pour ça. Merci d'avoir été là. Sur
beaucoup.
Radio Imo, je rappelle donc que l'AMIF 2026, c'est les 2 et 3 juin, nous y serons évidemment avec Radio Imo, on aura un plateau là-bas, on sera ravis d'ailleurs de vous recevoir, Stéphane Baudet.
J'essaierai d'avoir la voix, parce qu'il m'arrive de finir les salons sans voix.
Vous aviez plus de voix, c'était difficile, mais bon, c'était sympa, ça donnait un petit côté, un petit côté chaleureux. Bon, plus de 200 exposants, on vous attend et n'hésitez pas à aller prendre votre place sur amif.asso.fr et je vous dis à très vite sur Radio Imo.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.